France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City Sandinghausen.
Halia Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Un jour dans le monde, c'est un jour à Gaza ce soir.
Nous souffrons, et pas seulement les enfants. Quand ils nous disent qu'ils veulent manger, que faisons-nous? Il n'y a pas de farine, pas de pain, pas de nourriture, rien. Nous n'avons pas de riz pour les nourrir.
C'est une habitante de Ran Younes qu'on vient d'entendre. Bonsoir Amande Bazerolle.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes coordinatrice d'urgence MSF. Vous revenez tout juste de Gaza, où vous devez être de moins en moins nombreux, non humanitaires et capables de témoigner. Combien êtes-vous encore parmi les Gazaouis?
Alors là, en totalité, on doit être à peu près 150 à 200 humanitaires encore présents sur place, mais avec de moins en moins de travail, puisqu'il n'y a plus d'aide qui rentre depuis plus de deux mois aujourd'hui.
Et on y viendra, bien sûr. Pendant le temps que vous y avez passé, combien de tirs avez-vous essuyé? La fréquence des... Alors, on n'est pas au millimètre, hein, mais la fréquence des attaques israéliennes qui continuent. Donnez-nous une idée de ce que ça veut dire, en fait, aujourd'hui.
Les attaques, elles sont quotidiennes. Elles sont proches de vous ou pas. C'est impossible de savoir à l'avance où est-ce que ça va atterrir. On n'est pas nous-mêmes forcément prévenus à l'avance et ça peut être très très proche de nos hôpitaux quand ça ne cible pas directement les hôpitaux. Donc les gens vivent dans une peur constante que ça tombe chez eux ou chez le voisin. Et c'est partout. C'est dans les zones qui sont sous ordre d'évacuation, dans les zones qui sont les zones tampons qui ont été dictées par les Israéliens ou dans les zones qui sont aujourd'hui celles où on opère.
Il reste combien d'hôpitaux d'ailleurs à Gaza? Alors j'ai presque envie de dire entre ceux qui fonctionnent et ceux qui de toute façon ne fonctionnent plus, mais enfin si on essaye de
alors,
dire ce qu'il reste.
Alors il y a un peu moins d'une vingtaine d'hôpitaux encore partiellement fonctionnels. Il n'y a plus un seul hôpital qui soit complètement fonctionnel aujourd'hui à Gaza.
Et avec quoi vous soignez? Parce que si rien ne rentre, s'il n'y a pas de matériel, s'il n'y a pas de médicaments, on y viendra évidemment encore moins de nourriture. Comment on soulage les blessés?
Aujourd'hui, on vit encore sur ce qu'on a pu faire rentrer pendant cessez-le-feu. Mais effectivement, ça est en train de s'amenuiser vraiment très rapidement parce que effectivement, l'intensité des frappes et le fait que les patients sont de plus en plus graves et ne cicatrisent pas. Donc aujourd'hui, le vrai problème, c'est l'absence de nourriture a aussi des conséquences sur la cicatrisation des patients qui restent très longtemps dans nos programmes.
Et je pense aussi aux antidouleurs, par exemple, aux choses comme ça. Est-ce que ça existe encore, un antidouleur à Gaza aujourd'hui?
Ça existe encore, mais effectivement, aujourd'hui, on fait du troc entre organisations. Donne-moi des compresses, je te donne du paracétamol. On en est là.
Est-ce que, d'abord, est-ce qu'on a peine à décrire, Amande Bazerolle, à quoi ressemble Gaza aujourd'hui quand on en revient, même quand on est comme vous, rodé à des situations d'urgence? Est-ce qu'on a peine à décrire ce qu'on y voit?
C'est très difficile parce qu'en plus, on travaille en demi-journée, en fait. Il y a tellement d'événements qui arrivent à une telle fréquence qu'on n'arrive même plus à se concentrer. On gère chaque événement les uns après les autres, sans avoir de réflexion sur du plus long terme. On n'arrive plus à digérer et on n'arrive plus effectivement à retranscrire tout ce qu'on voit, sachant qu'il n'y a que nous aujourd'hui, il n'y a pas de journalistes internationaux à Gaza. Il n'y a que les humanitaires aujourd'hui et les journalistes palestiniens qui, hélas, sont également ciblés par les Israéliens.
Gaza, vous le disiez, est fermé hermétiquement depuis deux mois, de vrais mois pleins. Quand on dit que la famine guette, qu'il n'y a plus rien à manger, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, pardon, qu'est-ce qu'on mange à Gaza, quoi, en ce moment? Comment est-ce qu'on essaye de se nourrir?
Déjà, y compris mes collègues aujourd'hui n'en sont réduits qu'à un seul repas par jour. C'est non seulement la disponibilité, il y a encore un peu de nourriture, mais elle est à des prix absolument exorbitants, donc absolument inaccessibles pour le tout à chacun. Aujourd'hui, c'était plus de 80% de la population de Gaza qui est dépendante de l'aide humanitaire, et ces chiffres ne cessent que d'augmenter. Et même les gens qui ont de l'argent ne peuvent pas se le payer aujourd'hui. Donc il n'y a rien, il y a quelques conserves, quelques légumes, mais qui sont effectivement extrêmement chers. Donc voilà, les gens en sont réduits à un repas par jour. Et même les gens qui ont de l'argent aujourd'hui ne peuvent se permettre qu'un seul repas par jour.
Vos collègues d'UNICEF, ils parlent de famine. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que oui, Gaza est en état de famine?
Alors famine est un terme qui a une définition très particulière. Donc on va vers la famine et il y a certaines personnes qui sont déjà dans une plus que sécurité alimentaire. Aujourd'hui, il y a un rapport qui est sorti. Donc, il y a 93% de la population qui est au-delà de l'insécurité alimentaire, une vingtaine qui sont dans des situations absolument catastrophiques. Donc, on n'en est pas encore à la famine, mais effectivement, il faut faire attention, c'est pas ne pas galvauder le mot, mais vraiment, on est sur des gens qui perdent du poids, qui ont un vrai problème. Ça va avoir des gros impacts sur la santé de tout chacun.
Il faut rappeler qu'il y a combien 470 000 personnes là en ce moment, et notamment à Gaza City, grosso modo. Moi, j'ai lu 71 000 enfants, 17 000 mères de famille en termes de population en ce moment ?
Alors ça, c'est Gaza City.
Gaza City.
Donc dans le nord de Gaza, aujourd'hui, il y a un peu plus d'un million d'habitants et à peu près la même au sud. Donc Gaza, c'est 2 millions, 2,1 millions d'habitants.
Vous dites que il y a deux choses. D'abord qu'il n'y a pas de ramassage d'ordures, évidemment, non plus. On pourrait penser que ça n'a pas beaucoup d'importance en ce moment, mais en fait, si. Parce que ramasser les ordures, ça veut dire éviter des maladies, notamment. Est-ce que ça aussi, c'est des choses qu'on commence à voir et que vous avez vues pendant votre séjour ?
Ah, c'est des choses qu'on voit. C'est le ramassage des ordures, mais c'est aussi les eaux usées et le fait et également de ne pas avoir accès à l'eau. Il y a un vrai problème. On parle beaucoup de la nourriture, mais il y a un énorme problème d'accès à l'eau aujourd'hui à Gaza. L'eau est salée à Gaza. Elle nécessite d'être désalinisée. Donc ça nécessite d'avoir de l'essence pour pouvoir le faire. Et en plus, déjà, toute cette capacité de production d'eau a été extrêmement détruite pendant la guerre. Donc il nous reste très peu de capacité de production d'eau aujourd'hui à Gaza.
Ce que vous dites, Amanda Bazrol, c'est que ce qui est marquant, c'est que désormais, c'est chacun pour soi. Et comment leur en vouloir ? Comment imaginer que ça se passe différemment ? Mais le tissu social, le tissu d'entraide est en train de partir en morceaux parce que chacun a faim et donc chacun se débrouille.
C'est exactement ça. Aujourd'hui, on était sur de la famille élargie où les gens s'entraidaient. On parle toujours des grandes familles à Gaza, mais aujourd'hui, on voit que le tissu s'est vraiment resserré sur la famille nucléaire. Et même là, c'est très compliqué de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Donc, comment subvenir aux besoins des parents, des cousins, etc. Donc, on voit que tout a disparu. Il reste quelques systèmes, un petit système qui s'appelle les tequillas, qui sont des petites cantines, mais qui, pareil, arrivent à la fin de leurs ressources.
Restez avec nous, Amanda Bazrol. Je voudrais qu'on aille faire un aller-retour en Israël, rejoindre Thibault Lefebvre. Bonsoir Thibault.
Bonsoir.
Thibault, nul n'ignore la situation à Gaza, hein, en Israël. Est-ce que des voix s'élèvent, des nouvelles voix s'élèvent en Israël pour dire que l'arme de la faim n'est pas acceptable ? Est-ce qu'il se passe des choses de cet ordre-là ?
Alors des voix, oui. Hein, des nouvelles voix, non. Ce sont en fait toujours les mêmes, mais elles ont aujourd'hui plus d'écho. Alors ces noms vous sont peut-être familiers. Il y a des dizaines d'associations comme Standing Together ou Combatants for Peace qui défendent la coexistence entre juifs et arabes. Ces associations n'ont jamais cessé de manifester, mais juste après le massacre du 7 octobre, dans le climat, vous en souvenez, de vengeance qui animait la quasi-majorité des Israéliens, elles étaient inaudibles. Alors un signe que le vent est peut-être doucement en train de tourner. La semaine dernière, ces associations se sont toutes rassemblées à Jérusalem dans ce qu'elles ont appelé le Sommet pour la paix. C'était tout simplement le plus gros événement organisé depuis près de 2 ans pour essayer de faire taire les armes. Emmanuel Macron a par ailleurs envoyé une vidéo de soutien qui a été diffusée pendant la journée dans la principale salle de conférence. Et ce que j'ai pu constater, eh bien, c'est que les discours ont évolué il y a encore 6 mois. La revendication qui écrasait tout le reste était la libération des otages. Aujourd'hui, de plus en plus de militants réclament ouvertement la fin de la guerre à Gaza. Je vous propose d'écouter Nava Rosolio. C'est une des principales organisatrices.
En tant que juive et membre de la nation qui a survécu à l'Holocauste, on doit mettre fin aux atrocités là-bas. Je connais beaucoup de gens qui n'ont rien à voir. Beaucoup trop, qui ont été blessés ou tués. J'espère que ça va s'arrêter.
Alors Nava Rosolio parle évidemment des dizaines de milliers de civils palestiniens morts, blessés ou disparus, mais aussi des soldats réservistes israéliens qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à refuser d'aller se battre.
Restez avec nous Thibault, j'ai une autre question pour vous, mais quand même là-dessus, Amanda Bazrol, qu'est-ce qu'on dit à Gaza ? Est-ce qu'on attend au fond de Trump qu'il finisse par tordre le bras de Netanyahou ? Est-ce que c'est ça qu'on entend, y compris dans les rues ? Parviennent enfin à faire rentrer de la nourriture et lèvent le blocus, parce que j'imagine que c'est pas d'Israël qu'on attend cette levée-là.
Non, effectivement, il y a ce qui est toujours impressionnant, c'est que les populations ont toujours de l'espoir que quelqu'un vienne effectivement réussir à infléchir la politique israélienne. Et donc, effectivement, en attendant peut-être de Trump que dans les prochains jours qu'il y ait une annonce qui leur permette effectivement de au moins déjà laisser rentrer l'aide. Ne commencer que par ça.
Sachant qu'il y a combien 116 000 tonnes qui attendent à l'entrée, de ce que j'en ai lu moi, 116 000, de toute façon, ça suffira certainement pas à nourrir la population de Gaza en ce moment.
Non, et le problème reste entier. On a vu ça déjà au mois de décembre. Si ça n'est pas organisé et s'il n'y a pas une protection de l'aide, on va se retrouver avec des pillages qui sont sanglants. Donc, il faut une aide massive qui rentre pour éviter ce type de pillage qu'on a déjà vu et qui ont vraiment eu un impact sur toutes nos opérations et sur la population.
Il y a eu une proposition dans ce genre, on va y revenir dans un instant. Thibault Lefebvre, je voudrais juste me retourner vers vous. vous un instant. Cet après-midi, on a bien vu la libération de donc l'otage israélo-américain qui montre un geste politique de la part du Hamas vers les Américains. Trump est en partance pour le Golfe. On le sait, il parle d'un geste très fort à venir. La presse israélienne, la presse du Golfe parle même d'un geste vers les Palestiniens. Qu'est-ce qu'on attend exactement? Qu'est-ce qu'on dit chez vous?
Bon, on va pas tourner autour du pot, Fabienne. La rumeur relayée dans la presse des pays du Golfe ce week-end, eh bien, c'est tout simplement l'hypothèse de la reconnaissance d'un État palestinien par les États-Unis. Vous avez bien entendu. Ce serait un tel renversement qu'on a du mal à y croire. Ce week-end, j'échangeais d'ailleurs avec des diplomates américains. Ils étaient clairement tous sceptiques. Je dois en revanche vous dire que la première fois que j'ai entendu concrètement cette éventualité, c'était en Cisjordanie, à quelques kilomètres de là, dans la bouche d'un américano-palestinien qui avait voté Trump, un avocat de la ville cisjordanienne de Tourmoussaya, qui m'avait dit qu'avec le nouveau président, tout était possible et que de toute façon, la situation ne pouvait pas être pire qu'avec Joe Biden. Alors du côté israélien, on encaisse en ce moment les coups. Ça fait un bon mois que Donald Trump fait cavalier seul dans la région, sans consulter son allié de toujours. Il y a eu, vous en rappelez, la trêve unilatérale au Yémen, c'était la semaine dernière, puis les négociations avec l'Iran. Aujourd'hui, les échanges, alors directs ou indirects, avec le Hamas. Et à chaque fois, Israël est hors jeu. Alors, à la veille de ce départ de Trump pour l'Arabie Saoudite, les dirigeants de l'État hébreu sont clairement dans le flou total.
Amande Bazrol, merci beaucoup Thibault Lefèvre. Deux choses. D'abord, cette suggestion israélienne de confier la livraison des denrées alimentaires à des sociétés de sécurité privée, en gros, c'est ce qu'il disait. Le prétexte étant, mais sinon, c'est le Hamas qui mettra la main dessus. Vous, association humanitaire, les denrées distribuées par des associations, des services de sécurité privée, qu'est-ce que ça vous inspire?
Ben déjà, on comprend pas pourquoi il faut réparer quelque chose qui n'est pas cassé. Enfin, aujourd'hui, les Israéliens disent que le Hamas a mis main basse sur la distribution de l'aide. Aujourd'hui, moi, les organisations, nous distribuons pas, mais les organisations qui distribuent, le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, savent faire et l'ont fait et ça arrive directement aux populations. Donc, ça n'est pas quelque chose que nous on a constaté. Et quand on en discute avec eux, ils nous disent oui, mais c'est pas vous. Donc, pourquoi changer en fait? Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Et aujourd'hui, c'est ce qui a été proposé n'a jamais été présenté par écrit. Donc, c'est des choses où voilà, ça reste un peu de la chimère aujourd'hui, mais ce qu'ils présentent, c'est effectivement des déplacements de population, d'avoir à aller chercher de l'aide dans le sud de la bande de Gaza. Donc, sachant qu'aujourd'hui, à Gaza, il n'y a pas de moyen de transport.
Et ni d'essence.
Ni d'essence, donc les gens ne peuvent pas se déplacer. C'est aller chercher, c'est de l'aide au compte-gouttes, sous perfusion, où on vous donne de quoi survivre pendant deux semaines. Donc, c'est vraiment de l'humanitaire à flux tendu.
Combien de temps, juste en une seconde, Gaza peut tenir dans cette situation-là?
Ça ne tiendra pas parce que ça ne sera pas possible en fait. Logistiquement parlant, en fait, ça c'est ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est que au-delà du fait que ça va à l'encontre du droit international humanitaire, logistiquement parlant, ça ne peut pas se mettre en place.
Amande Bazrol, vous êtes coordinatrice d'urgence pour MSF de retour de Gaza. Merci beaucoup de votre passage chez nous. Merci. La suite ce soir, c'est le reportage d'Un jour dans le monde avec les 80 ans de la libération d'un camp autrichien tombé dans l'oubli mais que l'on cherche justement à remettre dans les mémoires. Et pour aller ensemble jusqu'à 19h, il y a Kevin Dufresne sous les radars.
Au Danemark qui récompense les touristes les plus verts.
Le Monde à 18h50, c'est vous Franck Madvon. Bonsoir Franck.
Salut Fabienne, bonsoir à tous. On va tenter de décrypter les implications de la fin de la lutte armée du PKK en Turquie.
Et puis la BO du Monde, Cyril Sauvageau.
On découvrira ce soir la musique étonnante d'un globetrotteur d'origine libanaise, Sharif Megarban.
Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète commence à peine. Il passe par Seattle aux États-Unis. Voici Nirvana, The Man Who Sold the World sur France Inter.
Came as us.
Bienvenue en Autriche, à l'occasion des 80 ans de sa libération. La date commémorative, c'était ce samedi. Je vous emmène au camp de concentration de Gusen. 71 000 personnes y ont été déportées, près de 30 nationalités différentes, dont de nombreux Polonais. Plus de la moitié de ces personnes y sont mortes. Ça en fait le camp le plus meurtrier d'Autriche, qui pourtant est tombé dans l'oubli après la guerre. 80 ans plus tard, le travail est toujours en cours pour enfin créer un mémorial digne de ce nom sur ce site où se trouvent aujourd'hui des habitations privées. Et le reste, c'est Isorias qui raconte.
Érigé comme camp annexe du camp de concentration de Mauthausen, Gusen sera le plus meurtrier des camps autrichiens, surnommé l'enfer des enfers en raison des conditions de détention extrêmement dures. Mais en arrivant à Gusen, ce qui surprend, c'est le peu de vestiges qui restent du camp originel. Sous une pluie battante, on aperçoit quelques stèles, le four crématoire, et à quelques mètres seulement de celui-ci, séparé par un simple mur, plusieurs maisons. Cela car au lendemain de la guerre, ni les Soviétiques, qui occupèrent la zone jusqu'en 1955, ni l'Autriche, qui récupéra le terrain à cette date, n'ont voulu faire de Gusen un lieu de mémoire. Des parcelles du camp furent ainsi vendues, explique Bernhard Mülleder, en charge du mémorial de Gusen.
À partir du milieu des années 50, il était possible d'acheter des terrains ici, ce que de nombreuses personnes ont fait. D'abord parce que c'était bon marché, et aussi parce que c'était pas très loin de la ville de Linz, où il y avait du travail. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent ici depuis deux ou trois générations. Cela veut dire que pour eux, cet endroit est devenu leur foyer d'une certaine manière. Mais bien sûr, l'histoire nazie du lieu reste là.
Gusen est ainsi devenu le symbole d'une Autriche qui a longtemps nié son passé nazi avant qu'un véritable travail de mémoire ne commence dans les années 90. Il y a 4 ans, l'Autriche a enfin pu racheter certaines parcelles du camp d'importance historique, notamment celle où se trouvait la place d'appel. Un concours à échelle européenne pour la conception d'un nouveau mémorial doit se terminer cet été. Il sera ensuite construit et devrait être achevé en 2031. Selon Bernhard Mülleder, mieux vaut tard que jamais.
On peut critiquer le fait que cela ait pris du temps, mais je crois qu'il n'est jamais trop tard. Ce qui est important pour le travail de mémoire et de commémoration, c'est qu'il se concrétise. Les livres peuvent faire beaucoup, mais les lieux dits historiques permettent autre chose. Venir dans un tel lieu, le voir de ses propres yeux, cela a un effet sur les gens. Le lien et la prise de conscience sont alors différents.
Renate Herbst s'est rendue de nombreuses fois à Gusen avec son père, qui fut déporté durant la guerre. Il est décédé en 2020, mais elle continue, à 76 ans, à faire ce pèlerinage mémoriel. Et chaque fois, elle revoit son père se recueillir dans ce lieu où trop peu d'éléments, dit-elle, rappellent les milliers de victimes et l'enfer qu'elles ont vécu.
Je pense qu'il voulait s'y rendre pour ne pas oublier, parce que l'homme a tendance à refouler les mauvaises choses. Il ne parlait pas de ce qu'il ressentait, mais je vois encore cet homme petit et mince se tenir voûté et laisser couler ses larmes. Moi, je ressentais moins de la tristesse que de la colère et de l'incompréhension.
Si elle aime l'idée d'un mémorial digne de ce nom, ici, à l'avenir, Renate Herbst regrette le fait que son père ne le verra jamais, comme tant d'autres victimes, car tout cela vient trop tard.
Il n'y a plus personne. Tout le monde est déjà mort. Alors qui va s'y rendre pour vraiment commémorer les victimes? Une poignée de personnes. Mon père dirait sûrement que si déjà 5 personnes pensent différemment après, c'est déjà ça. Ça serait pour moi aussi bien sûr une satisfaction si ça ressemblait un peu plus à un mémorial qui commémorerait vraiment les victimes et les gens qui ont survécu et tout ce qu'ils ont enduré. J'espère devenir aussi indulgente que mon père l'est devenu avec l'âge.
L'an passé, 20 000 personnes ont visité le camp de Gusen, dont 4 000 élèves autrichiens.
Isorias, pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Kevin, c'est d'abord au Danemark que nous sommes, où l'on récompense les touristes vertueux.
Oui, parce que la douceur danoise à la belle saison attire de plus en plus de touristes, sauf que Copenhague s'est fixé comme objectif d'être la capitale la plus durable du monde. Alors pour réussir son pari, elle veut inciter ses visiteurs à participer au projet, d'où ces annonces ce matin de l'Office de tourisme de Copenhague. Les touristes les plus écolos vont avoir droit à des cadeaux et seront les plus récompensés, ceux qui viennent en train, qui reste plus de 4 jours sur place et qui sur place se déplace à pied ou à vélo. Mais beaucoup d'autres actions en faveur de l'environnement sont encouragées, par participer par exemple à une opération de ramassage des déchets. Parmi les récompenses, des locations de vélos gratuites, des repas végétariens offerts ou encore des visites à tarifs réduits. C'est en fait l'élargissement d'une expérimentation menée l'été dernier. Ça commence le 17 juin et ça dure 9 semaines.
Nous voici au Nigeria, où les attaques djihadistes se multiplient.
Oui, dans l'est du pays, où sévissent des groupes islamistes depuis plus de 15 ans maintenant, certains contrôlant des pans entiers de territoire. C'est le cas dans l'état de Borno, touché ces dernières semaines par plusieurs attentats, une centaine de victimes rien qu'au mois d'avril. Attentats attribués au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, dont les combattants sont très implantés dans la forêt de Samissa, d'où ils lancent leurs raids, notamment sur la grande ville de Bama, plus de 300 000 habitants. Eh bien, le gouvernement local vient de décider d'y interdire la vente de carburant, plus d'essence. Les autorités pensent ainsi rendre difficiles les déplacements des assaillants, mais ça ressemble à une mesure un peu désespérée. La contrebande pourrait s'organiser très vite et les groupes terroristes disposent souvent de réserves de carburant.
Et puis nous sommes en Espagne avec un prodige qui a de l'humour.
L'Europe du foot n'a parlé que de lui cette saison. Lamine Yamal, attaquant star du FC Barcelone. Il aura 18 ans dans 2 mois, buteur encore hier soir lors du Classico. Non seulement il est très doué avec un ballon, mais en plus il est plutôt bonne patte, acceptant ce week-end de prendre en photo un groupe de touristes français dans les rues de Barcelone, presque incognito.
Les gars, on dit...
Comment tu t'appelles, lui demande une des touristes. Ryan, répond le joueur dans un sourire, tout en invitant la bande à poser le téléphone à la main. Il a quand même été reconnu, vous l'avez entendu. La séquence amuse en tout cas les réseaux sociaux français. Et l'attaquant espagnol a encore fait parler de lui dans l'Hexagone hier, puisqu'il est arrivé au stade pour le Classico, donc face au Real Madrid, avec une grosse enceinte qui diffusait ça. C'est Jules, bien sûr, vous l'avez reconnu, Fabienne, oui. L'un de nos rappeurs les plus célèbres. Là, en l'occurrence, son titre « J'oublie tout ». Lamine Yamal n'a rien à voir avec la France, mais il l'a déjà dit, il est fan de Jules. Et sur Instagram, le Marseillais a repartagé la séquence en disant que le jeune joueur était, je cite, « une légende ». De là à voir Lamine Yamal débarquer à l'OM, il y a un petit peu de chemin peut-être.
Je ne savais pas qu'on avait encore à nouveau des grosses enceintes qu'on trimballait sur son épaule. Ah là là, Kevin, merci beaucoup, vous partez avec les fuckers. Oompa, c'est le titre sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
See you.
Motherfuckers, Oompa, vous êtes dans Un jour dans le monde et c'est le monde à 18h49, Franck Madvon.
How dare you? World has
changed. Fabienne Synthès. Le 18-20.
Franck, les Kurdes tournent une page de leur histoire. Le PKK a annoncé ce matin sa dissolution. Et ce soir, vous nous expliquez pourquoi la fin de la lutte armée contre l'État turc est une victoire en demi-teinte pour Erdogan.
Il faut d'abord prendre la mesure de ce que représente le PKK en Turquie. Le Parti des travailleurs du Kurdistan est fondé par Abdullah Öcalan à la fin des années 70. C'est un mouvement marxiste qui prend les armes contre l'État turc en 84. Le PKK souhaite au départ la création d'un État kurde, rejeté par l'accord de Lausanne il y a un siècle, il revendiquera par la suite une autonomie renforcée. Le PKK devient rapidement incontournable en Turquie. Il va mener un combat contre Ankara qui fera des milliers de morts, plus de 40 000 selon les estimations les plus crédibles. La dissolution du mouvement annoncée aujourd'hui répond à l'appel à déposer les armes lancé en février par Öcalan, le chef historique donc du PKK, depuis la cellule où il est emprisonné depuis 26 ans.
Et alors comment on en est arrivé là ?
Alors c'est le résultat, Fabienne, d'un long processus et de l'affaiblissement progressif du PKK. Ses combattants subissent les bombardements turcs là où ils sont réfugiés, dans les montagnes de Kandil, dans le nord de l'Irak. Et c'est aussi l'aboutissement d'une médiation initiée à l'automne par Ankara. À la manœuvre, un proche d'Erdogan, le chef ultranationaliste Devlet Bahçeli, cet homme qui incarne la dérive autoritaire du président turc, a tenté de convaincre le PKK que les conditions étaient réunies pour la paix, en passant par le principal parti pro-kurde. Peu de Turcs faisaient confiance à ce processus et pourtant la stratégie a fonctionné. Le PKK considère aujourd'hui avoir accompli sa mission historique et se dit prêt à faire confiance à un processus démocratique.
Enfin quand même, les précédentes tentatives, Franck, avaient pourtant échoué.
Oui, en 2013, Erdogan avait tendu la main aux Kurdes qui représentent environ 20% de la population turque. La percée des candidats kurdes aux élections de 2015 avait remis en question les avancées. Cette fois, le processus semble donc aboutir, mais il reste beaucoup de questions en suspens. À qui le PKK remettra-t-il ses armes? Y aura-t-il une amnistie pour ses combattants? Abdullah Öcalan sera-t-il libéré ou bénéficiera-t-il de conditions de détention moins strictes? Comment vont réagir les Kurdes de Syrie, cousins du PKK? J'y reviendrai d'ailleurs. Et bien sûr, on s'interroge sur les contreparties obtenues par les Kurdes. Sans parler d'Öcalan, beaucoup d'élus kurdes restent en prison. Seront-ils libérés? Des gestes d'ouverture sont aussi attendus sur la reconnaissance de l'identité kurde, par exemple l'enseignement de la langue.
Et puis la dissolution du PKK, c'est aussi un calcul pour Erdogan.
C'est un succès politique indéniable, la fin d'une menace terroriste qui pèse depuis 40 ans sur la Turquie. Le climat va forcément changer dans le pays et c'est important à un moment où de nombreux opposants sont en prison, à commencer par le premier d'entre eux, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. L'étau se desserre. Erdogan mise par ailleurs sur l'électorat kurde pour tordre la constitution et briguer un nouveau mandat présidentiel. Il prend toutefois deux risques. Un, les électeurs nationalistes anti-kurdes pourraient lui tourner le dos. Et deux, on y revient, il est probable que les Kurdes de Syrie reprennent le flambeau du PKK. Le nouveau régime à Damas, pourtant proche de la Turquie, semble leur laisser une place dans la nouvelle Syrie. Erdogan a donc dû faire des concessions, raison pour laquelle, sans doute, il ne bombe pas le torse et n'a pas encore réagi d'ailleurs à la dissolution du PKK.
Franck Madvon, merci beaucoup. Voici Cyril Sauvageau qui, comme chaque lundi, écoute la musique que fait le monde en tournant, c'est la BO du monde.
France Inter, le 18-20.
Une BO du monde consacrée ce soir à un artiste libanais, Cyril, qui enjambe les frontières. Il s'appelle Sharif Megharban. Vous avez écouté pour nous son nouvel album, nourri de multiples influences.
C'est la dernière trouvaille d'un excellent label Habibi Funk, spécialisé dans les rééditions de musique du monde arabe, Liban, Égypte, Algérie, Libye, déjà une trentaine de références au catalogue. Et pour la première fois, un artiste d'aujourd'hui, c'est lui, le Libanais Sharif Megharban, et sa musique instrumentale nourrie de voyages à travers le monde. « L'album s'intitule Hawalat. Le terme désigne un système de transfert de devises informel très répandu en Afrique et au Moyen-Orient. Clin d'œil aux influences musicales de Sharif Megharban, un patchwork de sons et d'univers entre la pop psychédélique, l'afrobeat, les mélodies orientales et les bandes originales de films à l'ancienne de compositeurs comme Ennio Morricone, Vladimir Kosma ou François de Roubaix.
Particularité, Cyril, Sharif Megharban est un adepte de l'autoproduction. On dit qu'il a déjà enregistré pas moins d'une centaine de disques.
Amusez-vous à faire un tour sur son profil Bandcamp où sont répertoriés tous ses projets musicaux, des albums par dizaines sous plusieurs pseudonymes. Il y a son groupe pop-rock Heroes and Villains, du nom d'une chanson des Beach Boys. Il y a Twin Tower, Free Syndicate Association ou encore le Cosmic Analog Ensemble, un de ses avatars les plus séduisants dans une drôle d'ambiance rétro, kitsch, exotique, un petit côté musique d'ascenseur qui ne manque pas d'humour. Projet bricolé la plupart du temps en solitaire dans le home studio de Lisbonne où il vit aujourd'hui, entouré d'une multitude de guitares et de claviers. Sharif Megharban n'est pas musicien professionnel, mais il y passe l'essentiel de son temps libre. Pendant des années, il travaillait pour une ONG en Afrique et enregistrait le soir au Kenya ou en Somalie. Ses méthodes artisanales l'ont suivi tout au long de son parcours et continue d'imprégner sa musique, même si l'autoproduction est de plus en plus ambitieuse. Pour ce nouvel album, conçu entre le Portugal, la Suède et le Liban, son pays natal, Sharif Megharban a voulu s'entourer davantage. Il accueille de nombreux invités, un pianiste italien, une chanteuse de jazz, mais aussi un orchestre à cordes, le Stockholm Studio Orchestra, qui donne une dimension encore plus cinématographique à ses chansons.
Merci pour la découverte, Cyril Sauvageau, à lundi prochain. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Filly juste après. Il y a le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20. Philippe, ce soir, on entre dans les lycées pro.
Mais oui, les candidats au bac pro commençaient à plancher aujourd'hui. Français, histoire, géo. Demain, ce sera économie. Vive le bac pro. Téléphone sonne. Ce soir, Cécile, ma fille, a obtenu un bac STD 2A en 2022. Et aujourd'hui, après 3 ans de Beaux-Arts, elle passe des entretiens prometteurs pour des écoles d'architecture. Son parcours est brillant et si elle est acceptée, elle accédera à son rêve tout aussi rapidement qu'un jeune sorti du bac général. Farshad, nous avons 3 enfants, les 2 premiers ont fait un parcours de voie générale. Le 3e passe son bac pro actuellement, il s'épanouit. Par contre, de nombreux élèves sont en situation d'échec scolaire et je peux témoigner qu'il y a beaucoup plus de professeurs absents non remplacés. Et malheureusement, le niveau des professeurs laisse à désirer.
01 45 24 7000 pour dialoguer avec nous, c'est le même chemin pour vos pouces par WhatsApp, à tout de suite.